on a avec nous au téléphone Mathieu des Apatrides Anonymes. Bonjour Mathieu.
Bonjour Gabrielle, ça va bien?
Ça va, oui, toi?
Ben oui, ça va bien. On fait un petit retour après quelques semaines.
Ben oui, c'est ça, t'as un million de choses à nous dire, on t'écoute.
Ok, ben écoute, que c'était difficile de passer sous silence le départ de notre ami Jason Kenney du ministère de l'Immigration, de la Citoyenneté et du Multiculturalisme. Il y a eu un remaniement ministériel en plein été chez les conservateurs à Ottawa au mois de juillet. Et Kenney a changé de ministère après 5 ans comme ministre à temps plein, très activiste, a transformé profondément le système d'immigration au Canada avec toutes sortes de conséquences pour plein de gens dont on a parlé souvent. Dans les chroniques des apatrides.
Un favori des apatrides.
Ben oui, il a vraiment fait des choses extraordinaires dans le sens, vraiment, dans une période de temps très courte, et a vraiment poussé et forcé le système, ce qui fait que, par exemple, en 2012, il y a eu 26% de moins de personnes acceptées comme réfugiées au Canada. Ça, c'est une des conséquences au niveau des chiffres, mais qui est une réalité très, très concrète. Donc, finalement, se retrouve dans un autre ministère. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais tout ça pour dire que Kenney, qui est un jeune député quand même, qui est un néophyte en politique avant son élection, il y a à peu près une quinzaine d'années, faut se rappeler qu'il a été élu sous la bannière réformiste, hein, qui est un parti d'extrême droite au Canada, qui s'est fusionné avec le Parti conservateur progressiste à l'époque. Donc, de 2008 à 2013, ministre, après avoir été secrétaire d'État en immigration. Le National Post, d'ailleurs, l'a nommé il n'y a pas longtemps le meilleur ministre de l'immigration que le Canada ait eu. C'est sur tous ses sites, dont celui du Parti conservateur. Évidemment, donc, quelqu'un qu'on voyait partout, qui était un des bras droits de Harper, évidemment. Quelqu'un aussi qui était un organisateur politique et collecteur de fonds pour le Parti conservateur, qui l'est toujours d'ailleurs. Il se servait beaucoup de ses liens avec les communautés culturelles, particulièrement les éléments plus conservateurs dans les communautés pour financer le parti et avoir des votes et avoir souvent des élections qui étaient gagnées de justesse. Donc, très, très important comme personnage au niveau du parti et du gouvernement conservateur. C31 dont on a beaucoup parlé, c'est son principal héritage qui a, bon, on peut rappeler rapidement, là, mais la liste des pays sûrs, le droit d'appel aboli pour les réfugiés, détention pour toutes les personnes qui arrivent de façon dite irrégulière. Donc, vraiment quelque chose qui a été réalisé là, l'année passée en 2012 et qui, justement, a beaucoup réduit le nombre de personnes réfugiées acceptées au Canada. Quelqu'un aussi, on peut se rappeler, ces fameuses listes de most wanted, d'illégaux, qui étaient sur Internet et dans les journaux, les coupures aux soins de santé pour les réfugiés, réduction importante du parrainage et de la réunification des familles. Donc, quelqu'un qui a vraiment axé le système d'immigration sur l'économie, les besoins des entreprises et du patronat, et non plus sur l'accueil des demandeurs d'asile ou des réfugiés ou des gens qui voulaient juste changer de pays ou venir faire leur vie ici. Donc, a créé des catégories de bons et de mauvais immigrants. En tout cas, fait tout un travail de fond pour saper le système et puis pour encourager aussi, par le fait même, la discrimination, la suspicion et, bon, tous les liens avec la sécurité nationale aussi. Donc, on n'est pas déçu que ne soit plus ministre de l'immigration, mais disons que c'est le même gouvernement qui reste. Et disons son successeur, qui est beaucoup moins connu, Alexander, va sûrement continuer dans la même direction. Ben voilà, il est rendu ministre de l'Emploi et du Développement social, reste ministre du Multiculturalisme. Et son mandat, c'est de veiller à ce que les Canadiens soient bien préparés à participer pleinement au marché du travail à l'avenir. C'est ce qui est écrit sur son mandat. Et peut-être dire qu'il va s'occuper, entre autres, des suites de la réforme de l'assurance chômage. Donc, c'est un homme de confiance de Harper. Les gros jobs, ça lui fait pas peur. Donc, voilà pour Kenney. Justement, les Apatrides Anonymes, on a décidé de... par le fait même on avait commencé à préparer un dépliant sur un peu la politique, bon, la nouvelle politique en immigration qui, faut souligner, c'est quand même important. La loi s'appelait la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, c'est la loi sur l'immigration. Elle s'appelle maintenant la loi visant à protéger le système d'immigration du Canada. Donc, quelque chose d'assez important comme changement, même si c'est au niveau des noms, mais dans les faits, ça a beaucoup d'importance. Et on a préparé un dépliant chez les Apatrides pour, bon, un peu dénoncer de façon ironique ces nouvelles politiques, ces nouveaux changements et tout le chamboulement que ça a eu au niveau du système d'immigration. Et ironiquement, on a un peu supposé qu'il était rendu donc restaurateur vu qu'il avait changé de ministère. Et il y a donc un menu avec un vrai menu qui explique un petit peu les changements qui est disponible sur notre site apatridanonyme.info. Si les gens veulent aller voir ça, c'est assez bien fait. Oui.
Oui, ben. vous allez vous ennuyer, hein, c'est ça. J'ai pas hâte de voir la suite des choses. Qu'est-ce qui va réussir à massacrer plus un autre ministère?
Au niveau de l'emploi et au niveau du travail, évidemment, puis du chômage. Donc, c'est ça. Donc, si les gens veulent avoir un certain bilan, allez sur notre site. Sinon, ben, dans les autres choses dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que l'été, bon, on était absent là, de la chronique depuis le mois de juin. Puis l'été, il y a quand même plusieurs nouvelles qui sortent un peu plus inaperçues, évidemment, parce que, bon, tout le monde est moins là. Des choses que je voulais vous parler, entre autres, nos amis du SCRS, qui, ça a été sorti par la presse canadienne en vertu de la loi de l'accès à l'information, ont fait un guide en 2012, ça c'est aussi un petit côté comique aussi, qui est pour aider les employés fédéraux qui voyagent à l'étranger à se méfier des méchants services secrets des autres pays ou des méchants organisations qui veulent leur faire du mal. Donc un guide vraiment où il y a des extraits qui sont publiés par la presse canadienne, c'est assez intéressant, où on parle que le CRS avise les représentants du gouvernement qui pourraient être drogués, kidnappés ou victimes de chantage et succomber au charme d'un étranger ou d'une étrangère en voyage. On leur dit de ne pas trop en dire aux chauffeurs de taxi, de ne pas laisser un ordinateur portable sans surveillance et de ne pas ranger des documents secrets dans les coffrets de sécurité des hôtels. Donc, des choses qu'on pourrait penser évidentes, mais qui sont rappelées aux fonctionnaires fédéraux ou aux officiels fédéraux représentants du gouvernement canadien. C'est donc Dick Fadden, qui était directeur du SRS à l'époque, qui avait demandé ce guide, demandé ce guide à ses employés à la demande du gouvernement canadien, mais qui prétend aussi dans ce guide que l'espionnage est aussi répandu actuellement que durant la guerre froide. Donc, ça, c'est assez spécial aussi comme déclaration. Et je ne le savais pas, mais je l'ai su par cet article-là. Dick Fadden, qui était directeur du SRS, est devenu sous-ministre à la Défense. Donc, c'est intéressant de voir le jeu de base communicant qui se fait au niveau fédéral. Et pour finir sur ce fameux guide, on conseille également aux fonctionnaires en voyage de dissimuler les étiquettes de leurs bagages. Et on leur dit que leurs valises seront sûrement fouillées durant leur périple et qu'ils vont faire peut-être l'objet d'une surveillance physique. Et aussi, on leur demande de ne pas accepter de cadeaux comme des clés USB qui pourraient corrompre leur ordinateur. Donc, c'est sorti au mois de juillet dernier dans les journaux. Pas une grosse nouvelle, mais c'est quand même drôle de voir à quel point l'obsession de la sécurité et aussi le contrôle des fonctionnaires aussi est quand même très présent au niveau du gouvernement fédéral. Et le CRS, qui a beaucoup d'argent puis qui ne sait pas quoi faire souvent, fait des projets comme ceux-là. Donc, et on souligne dans l'article, c'est quand même drôle aussi, que ironiquement, les plus récents problèmes en matière de sécurité au Canada se sont déroulés justement au pays, en sol canadien, et non pas à l'extérieur. Et on pense à l'exemple de l'ancien ministre Maxime Bernier, qui avait laissé des documents chez quelqu'un pendant des mois. Donc, c'est ce genre d'événement-là qu'un ministre lui-même ne respecte pas les mesures de base. Donc, c'est assez ironique, ça aussi. peut-être dire aussi, parlant du SRS, que une nomination, c'est juste pour vous dire à quel point les services canadiens de renseignement et sécurité est complètement indépendant et surveillé par des clowns. Il y a une espèce de comité, un organisme fédéral donc qui s'appelle le conseil de surveillance du SCRS, où c'est des nominations partisanes. C'est Harper, c'est le premier ministre qui nomme les personnes. Et là, il y a eu une nomination au mois d'août, discrètement aussi, d'un avocat et ex-ambassadeur du Canada, qui est un Québécois, qui s'appelle Yves Forti, qui a été nommé donc au début août à cet organisme-là. Et peut-être juste savoir qu'en plus d'être ambassadeur et avocat, M. Forti a été aussi administrateur de la Banque royale du Canada, de TransCanada Pipeline, de président du conseil d'Alcan et a été aussi gouverneur de la compagnie de la baie d'Hudson. Donc, on voit un peu les intérêts et les copains. Peut-être rappeler que récemment, un certain Philippe Couillard et un certain Arthur Porter, qui est en prison au Panama, ont été aussi nommés à cet organisme de surveillance du SCRS. Donc, on voit un petit peu l'efficacité de cet organisme qui doit surveiller les activités et les abus et les exactions du Service canadien de renseignement et de sécurité. Mm-hmm. Donc, c'est technique un peu, c'est des trucs administratifs, mais c'est quand même révélateur un peu de ce qui se passe. Sinon, je voulais aussi vous parler de la Grèce. Grèce, dont on entend parler beaucoup pour, évidemment, les mesures d'austérité, le racisme, les groupes d'extrême droite, tout ça. En parlant justement des réfugiés ou des migrants ou des des personnes dites illégales. Vous savez qu'en Grèce aussi, il y a des coupures partout, y compris aussi dans les services pour les migrants, c'est sûr, parce que la Grèce reçoit beaucoup de demandeurs de statut et de personnes qui transitent par la Grèce pour aller vers d'autres pays. Et peut-être vous avez entendu parler récemment, le 10 août, donc il y a une dizaine de jours, il y a eu une émeute assez importante dans un centre de rétention qui s'appelle Amygdalesa, qui est le plus important centre de rétention en Grèce. Il y a 1600 migrants, migrantes qui sont incarcérés dans ce centre, principalement asiatiques. Et il y a eu donc une émeute assez importante, incendie, policiers blessés, anti-émeute et tout et tout. Faut savoir que il y a deux versions contradictoires. La police et les autorités disent que l'émeute a eu lieu parce que les autorités ont annoncé que la durée maximale de détention dans un cas serait portée de 12 à 18 mois. Et aussi, mais la version des groupes de défendeurs des demandeurs de statut, groupe de défense des demandeurs de statut, on dit que, parce qu'il faut savoir, ces gens-là vivent dans des containers. C'est des containers aménagés avec des meubles à l'intérieur et tout ça, mais des containers sans fenêtre, et que la climatisation avait été coupée depuis plusieurs jours dans plusieurs containers, donc c'est ce qui aurait causé l'émeute. Mais je pense, j'imagine, que c'est un petit peu des deux. Peut-être pour avoir une idée de ce qui se passe dans ces fameux centres de rétention, parce qu'il y a eu une manif à Montréal la semaine passée, à Laval, contre le centre de détention des immigrants à Laval, et puis où ça a brassé quand même pas pire, puis ça se fait de plus en plus, ces manifestations-là. Mais les centres en Grèce, dont celui-ci, le principal, qui s'appelle Amygdalesa, c'est ça, contient 1600 personnes, mais à des conditions vraiment déplorables. Les policiers rentrent souvent là-dedans pour fester un peu tout le monde, un peu pour se défiler. Les soins médicaux sont à peu près absents. On affirme que récemment, pendant le Ramadan, les détenus musulmans ont été battus pendant la prière. Il y a eu un Afghan d'origine qui est décédé aussi faute de soins. Donc, c'est vraiment très, très dur. Et donc, c'est normal qu'il y ait eu une émeute donc la semaine dernière. Mais il n'y a pas eu de changement vraiment dans les politiques de la Grèce qui, évidemment, dans les mesures d'austérité, c'est pas la priorité de s'occuper des migrants et des demandeurs de statut. Donc, voilà un petit peu la situation, un exemple de ce qui se passe avec la détention. Puis justement, comme je disais, à Montréal, il y a quand même eu une manif assez intéressante la semaine dernière à Laval. Donc, ça, c'est dans la même mouvance. J'avais une petite nouvelle aussi, peut-être un peu différente de d'habitude. Pas une nouvelle, mais une petite annonce. Peut-être les gens l'ont vu passer. Il y a un rappeur qui s'appelle Mos Def, M-O-S espace D-E-F, parce que je suis un autre qui a un nom semblable, qui a fait circuler une vidéo sur Internet qui est assez particulière, qui frappe pas mal, où il se met lui-même en scène comme s'il était un détenu de Guantanamo, parce qu'on sait que il y a une grève de la faim à Guantanamo depuis plusieurs mois d'une bonne majorité des détenus. Pendant le Ramadan aussi, évidemment, la plupart des détenus ne mangent pas pendant le jour, ne boivent pas, ne s'alimentent pas. Donc, pour un peu illustrer cette situation, et le fait que les médecins américains militaires alimentent de force donc des détenus pendant la grève de la faim ou pendant le Ramadan, il a voulu se mettre en scène lui-même avec le dispositif qui est utilisé pour alimenter de force les détenus, c'est-à-dire un tuyau qui est rentré dans la gorge et dans le nez pour alimenter de force les détenus. Et donc, il a fait une vidéo de mise en scène où il était bien orange comme une tenue de détenu et finalement, après 30 secondes, il était incapable de continuer la mise en scène et a retiré tous les tuyaux qui rentraient dans son corps. Donc, c'est une vidéo quand même qui a beaucoup circulé. Pour les gens qui veulent aller voir ça, c'est Mos Def, donc M-O-S-D-E-F, c'est le nom du rappeur américain. Et où est-ce qu'on voit cette mise en scène-là, qui est quand même très, très bien fait au niveau esthétique, aussi au niveau visuel, et puis qui peut nous donner une idée de ce qui se passe dans les prisons de la démocratie du Sud, qui s'appelle les États-Unis.
La chronique des apatrides, ça donne toujours envie de pas vraiment l'écouter, hein, c'est...
La chronique ou
oui, votre chronique à vous. Ouais, ben ce que vous en dites, tu sais, ce que vous dites, c'est à chaque fois. Enfin, on vient de passer la chronique à comme se couvrir les yeux en horreur là.
Ouais, mais c'est sûr qu'on reprend ce qui est déjà dans les médias, mais c'est souvent qu'il passe inaperçu, ouais. C'est sûr. Mais en même temps, c'est mieux avoir l'information que penser qu'il se passe rien. Hein, c'est drôle de votre émission aussi. Ouais, tout à fait. Fait que voilà pour la chronique des apatrides. Dans 2-3 semaines, il y aura Simon Marie-Ève qui va être là.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez publié une brochure à apatrides avec un S, anonyme avec un S.info.
Exactement. Un dommage, entre guillemets, à Kenny.
Ouais. Merci beaucoup, Mathieu.
Merci à toi, Gabriel.
Bonne fin de journée.
Au revoir. Bye.